I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous parlions yoga, souffle, mouvement, course et triathlon? Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et vous le savez, dans mon parcours, je me suis intéressé au yoga, à tel point que j'envisageais de faire une formation pour en apprendre plus sur le sujet et pourquoi pas devenir coach. Je sentais les bénéfices et l'intérêt pour mon corps et ma pratique sportive. Mais je ne me suis pas rendu compte à quel point ça me faisait du bien avant de ne plus pouvoir en faire. Car il m'avait blessé au ménisque, certaines positions étaient compliquées, difficiles, douloureuses, et petit à petit, je n'en ai plus fait. L'opération, la réforcée, quelques mauvaises habitudes m'ont fait ensuite reprendre du poids. J'ai énormément perdu en souplesse, en tonicité et en bien-être quotidien. Autant vous dire que me remettre au yoga en ce moment est à la fois vital et difficile. Il fut difficile de me remettre à courir, il est difficile aussi de me remettre au yoga. De simples mouvements comme toucher mes pieds deviennent compliqués, les rotations redeviennent compliquées, les équilibres redeviennent compliqués, la souplesse sur certains mouvements me manque carrément. Alors, quand je regarde le compte Instagram de mon invité, je suis, comment dire, jaloux. Oui, jaloux. Et pas que pour sa souplesse, mais aussi par sa ligne et ses équilibres. Einstein par ici, ou un Salambra Sirsana Pada Garudasana, oui, j'ai réussi à le dire, qui n'est autre qu'une position pour s'étirer les pieds en l'air. Bon, je vous mettrai les photos dans les notes de l'épisode, parce que vraiment, ça mérite le coup d'œil. Alors forcément, dans ces cas-là, moi, je veux mieux connaître la personne et je veux mieux connaître Greg. Je l'ai donc invité dans le podcast pour discuter de sa vision du sport et de sa manière de le pratiquer. On a parlé des courses qu'il prépare, et notamment, il fait Ironman pas très loin de chez moi, là, à Vichy, cet été. On a parlé de trail, de yoga, bien entendu, des positions, des étirements, mais aussi de la difficulté à trouver la bonne pratique ou même pratiquer quand on est un homme. Bah oui, parce que il y a quelques clichés quand même hein, sur le yoga pour les hommes qui sont bien accrochés. Et puis, bien entendu, je lui ai demandé comment moi aussi je pouvais vivre les pieds en l'air et pourquoi pas faire le malin sur Instagram avec des positions qui ont l'air quand même super géniales. Bon, bien entendu, vous comprendrez que l'essentiel de cet épisode, c'est surtout de parler de l'intérêt du yoga par rapport à la course à pied, par rapport au sport en général, mais aussi dans son quotidien, dans sa vie quotidienne. Parce que pour moi, j'estime que le yoga apporte des bénéfices quotidiens incroyables vraiment dans toutes les situations de la vie. Mais avant de vous laisser avec ma discussion avec Greg, je voudrais vous faire mes rappels habituels. Or, vous les connaissez par cœur, mais je les remets si au cas où vous découvrez le podcast. Bien entendu, vous pouvez partager sur Instagram avec le hashtag KM42podcast et mon nom @BertrandSoulier. Vous pouvez aussi faire ça de même sur Twitter. Vous pouvez partager les épisodes depuis Spotify. Vous pouvez partager depuis votre application de podcast préférée. Et surtout, n'hésitez pas à faire passer le mot à vos amis. Invitez des gens à venir écouter le podcast. Montrez-leur les applications. Expliquez-leur comment s'abonner. C'est comme ça que vous aidez le plus les podcasteurs. Sans oublier, de laisser un petit commentaire aussi sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone, iPad ou un ordinateur Apple. Vous pouvez aussi soutenir mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde, en participant financièrement au podcast. Hein, ça m'aide à payer les frais d'hébergement, comme c'est le cas aussi de la pub. Ça m'aide à payer le matériel. Ça m'aide aussi à vivre tout simplement au quotidien. Alors, sur Patreon, par exemple, ça commence à 1€ par épisode. Vous avez en bonus les épisodes sans la pub, le journal d'entraînement qui est un podcast privé avec les détails, et puis les épisodes aussi ils sont sans la pub mais aussi en avance. Et puis je vous rappelle que vous avez la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires, c'est le Hamster Zoning Club. Hein, sur YouTube, vous cherchez Hamster Zoning Club, vous allez la trouver sans aucun problème. Et puis bien entendu, le Hamster Zoning Club c'est aussi une communauté bienveillante pour nous entraider à réussir nos défis. Venez avec vos envies, votre niveau, votre passé, vos envies, votre futur, tout ce que vous voulez, et puis vous trouverez toujours une oreille attentive pour vous aider, vous donner des conseils et vous encourager. Il est temps maintenant pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser découvrir ma discussion avec Greg, le yogi runner. Allez, c'est parti. Bonjour Greg.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Super bien, impeccable.
Est-ce que tu as la forme?
Mais oui, je l'ai toujours. Je pense que j'en ai un petit peu trop même d'ailleurs. Il faudrait que je me calme un peu de temps en temps.
Oui, alors c'est ce que j'allais te dire, parce que quand je vois ton compte Instagram, j'ai l'impression que tu bouges dans tous les sens. Puis tu fais des trucs qui, moi, me semblent tellement bizarres, des équilibres, des je sais pas comment on appelle ça, des ponts, je sais pas comment t'appelles ça en fait, toutes les formes, les trucs que tu fais là sur Insta là.
Alors, quand je suis sur la tête en bas, c'est des inversions. C'est la famille des inversions dans le yoga. Par contre, les ponts, effectivement, c'est autre chose. C'est alors chakrasana, là, c'est se mettre en pont à l'envers. C'est
Ouais.
aussi hyper boostant tout ça. Mais tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça.
Oui, alors ça, on va en parler. Hein. Ça, justement, on va en parler. Puis je te dirai qu'en plus, ma kiné se moque de moi sur ma souplesse. Donc, on parlera de tout ça. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter en quelques mots. Comment tu te définis? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as plusieurs casquettes, en fait.
Alors moi, je me définis, ça va peut-être être un peu prétentieux de dire ça, comme un ultra sportif, mais qui se prend pas la tête. C'est-à-dire que je fais plein de sports, mais sans le faire à un niveau professionnel, mais à un niveau quand même assez élevé en définitive. Je fais plein de choses, mais en même temps, je fais du sport et j'ai aussi un boulot à côté. Donc c'est ça, c'est partager les deux. Donc le monde du sport, donc c'est principalement le running à la base, parce que ça a commencé par ça spécifiquement. Même si je faisais plein d'autres sports quand j'étais plus jeune, une mère un peu sportive qui m'emmenait à la piscine et autres. Donc j'avais déjà des prédispositions pour le triathlon, on va dire. Et j'étais à la campagne, on faisait beaucoup de vélo, etc. Donc j'ai un peu touché à plein de sports, mais c'est le running qui m'a vraiment branché le plus. Ensuite, il y a le yoga qui est venu se connecter là-dessus, qui m'a permis de faire du ultra trail et autres. Le triathlon qui est venu un peu naturellement. Le yoga. Et puis à côté de ça, bah, je suis responsable de ressources humaines. Donc je suis dans un tout autre, mais qui est toujours dans l'humain, en fait. Je rassemble vraiment les deux ensemble, hein. C'est le côté relation humaine du sport et du monde professionnel. C'est vraiment ça mon truc. Voilà, si je peux me présenter en quelques mots.
Bah, c'est une chouette présentation parce que en général on n'arrive pas trop à tout classer, à faire des liens entre tout. T'as parlé de triathlon d'ailleurs parce que, alors moi je l'avais pas vu, mais j'ai vu qu'il y a pas longtemps t'étais à Vichy, donc t'étais pas très loin de la maison pour faire quoi? C'était la reconnaissance de l'Half Ironman?
Ouais, c'est exactement ça. En fait, le 21 août, je suis inscrit, hein, à l'Ironman de Vichy. Et donc, je m'étais dit que ça serait intéressant de faire un petit truc pour avoir un effet de surprise en moins, tu vois, le truc qui fait pas pchit, mais qui fait où tu te dis, j'ai bien envie de voir ce que c'est que l'Allier où je vais nager, j'ai envie de voir le parcours vélo avec les 1000 mètres de dénivelé positif, je me dis ça donne quoi sur 90 km, et puis bon la course à pied ça me fait un peu moins peur, mais bon la course à pied après tout ça me fait un peu peur quand même. Et donc je me suis dit allez j'y vais tout seul, je me prends un hôtel et je me fais la reconnaissance au moins de la partie vélo et de la partie course à pied, ce que j'ai fait, hein. J'ai fait des 90 km de vélo et puis le semi-marathon. Alors j'ai pas osé aller nager dans l'Allier parce qu'on n'a pas le droit normalement à cette période et on peut être disqualifié de l'Half Ironman si on nous prend à aller nager dans l'Allier. Donc voilà, mais je me suis organisé ça. Ouais, je suis super content de faire cet Half Ironman.
Ouais, t'as vu le départ, t'as vu la petite plage et tout, t'as tout vu là.
Le palais du lac, etc. Les pontons. Voilà, je me suis dit moins de surprises. J'en ai fait d'autres des triathlons et c'est vrai que dans le triathlon, dans la course à pied, ça te fout le stress. À la limite, le triathlon, ça te le met encore puissance 1000 en plus, parce que je trouve qu'il y a toute une organisation, une logistique, et puis des règles hallucinantes, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, etc. Et puis surtout, tu dois toujours emmener tes sacs de transition, pas oublier ça, donc t'as plus de trucs à checker. D'habitude, t'as ton paquet de courses, comme on dit, ton ice pack, et là, t'en as plein, en fait. T'as le vélo, la natation, etc. C'est un peu plus stressant, je trouve. Puis il y a cette partie natation qui est toujours un peu stressante au départ aussi.
Ouais, mais c'est rien l'Allier. Attends, t'as vu, c'est un lac. À cet endroit-là, c'est un lac. C'est le seul endroit où t'as le droit de te baigner en plus, parce que je dis, l'Allier, c'est une rivière qui est dangereuse et tout. Pas parce qu'il y a des gros poissons, enfin il y a des saumons, tu vois, qui peuvent se balader un petit peu, mais il y a plein d'endroits où t'as pas le droit de nager. Et là, c'est un lac, tu vois, c'est plat, enfin il y a une belle plage de sable au départ et l'arrivée, enfin.
J'ai vu la plage un peu plus loin. Effectivement, en courant, je suis passé à côté de la plage. Ça avait l'air sympa d'ailleurs. Mais oui, c'est une retenue en plus dans cet endroit-là. C'est pas une. Je sais pas si c'est vraiment. Alors, il y a l'air d'y avoir un peu de courant quand même, hein. Bon, alors peut-être qu'il y en a plus maintenant qu'au mois d'août en même temps. Je sais pas. Donc
C'est pas
voilà.
du tout impossible parce que t'es venu dans une période où bizarrement en Auvergne il pleuvait, ce qui arrive quasiment jamais d'habitude. Là, t'es venu dans une période où il pleuvait. Et en fait, tu sais, la belle plage que t'as vue, parce que t'as une plage où je me demande si t'as pas fait une photo là-bas en plus dans ces coins-là. T'as une belle plage avec des planches en bois, tu sais, etc. Ouais. Et ben, je crois que quand t'en seras là. Et ben, tu te diras quand même qu'il te reste une partie de chemin à faire et que c'est pas la plus simple à faire parce que en courant, j'ai assisté à l'Ironman il y a 3 ans ou 4 ans et je peux te dire que dans cette zone-là, là, t'as beaucoup d'encouragement, vraiment. Mais
Ouais.
cette ligne droite, elle est longue.
Elle est terrible. Oui, mais j'ai déjà trouvé que dans le semi, c'était long après mes 90 km de vélo. Bon,
Ouais.
alors j'ai pas eu de bol pour le temps, hein, parce que j'ai choisi le meilleur week-end possible à Vichy. C'est le week-end où il pleuvait. Alors il faisait pas très chaud à la limite. Bon, je dirais, le faire sous la pluie, c'est pas plus mal que de le faire en plein mois d'août sous le cagnard. Donc ça va être à la limite plus dur au mois d'août, je pense, avec la chaleur que ce que j'ai pu avoir. J'ai eu un peu de vent dans les montagnes là derrière, mais bon, il y a des bonnes montées à vélo, mais c'était très sympa, les paysages sont magnifiques, donc à la limite j'étais bien sur mon vélo tranquille.
Ouais, puis t'as pu voir, hein, il y a des bonnes bosses, hein, il y a des bons petits virages, il y a des bonnes petites descentes, et c'est sympa.
Avant Saint-Thior, bah de Saint-Thior et tout ça là jusqu'à Bussée, c'est un peu, il y a une bonne montée là qui dure un petit moment en plus. Tous les noms en montagne quelque chose, là, je les ai pas tous retenus, mais c'est pareil, c'est très beau, mais alors. Voilà. Alors par contre, ce qui est génial, c'est quand même ces paysages. Et c'est vrai que, à partir de là, quand tu vois ça, en fait, ça te donne envie de. Je vais pas le cacher. Hein. Il y a des moments sur mon vélo, j'étais tout seul, j'étais à moitié en train de chanter et j'arrêtais pas de me dire, c'est mon mental, je sais pas, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est génial, en fait. J'adore ce parcours. Et quand j'étais même en côte, je me disais ça. Alors t'imagines, pourtant, je souffrais. Et en descente, alors là, c'était le pied absolu, quoi. Quand je reprenais la descente, je disais, mais qu'est-ce que c'est génial le vélo, en fait.
Voilà, mais non, mais ça c'est. Alors bon, tu sais, en Auvergne, on a quand même un débat de savoir si l'Allier fait vraiment partie de l'Auvergne, etc. Alors on va dire que Vichy, tu vois, on est la limite, hein, un petit peu, tu sais.
Ouais.
Après, parce que on a tellement d'Auvergnes différentes, hein. Là, t'es dans la partie plate de l'Auvergne. Ça me fait toujours rigoler parce qu'il y a plein de gens qui viennent courir dans l'Allier, tu sais, qui disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est monté, etc. Et puis tu leur dis, ouais, mais attends, t'es dans la partie plate de l'Auvergne. T'es pas dans la partie qui grimpe, qui etc. Tu vois, si tu faisais faire des trails, je sais pas si t'as déjà fait du trail en Auvergne. Le parti, le Sancy, le Cantal et tout, c'est beaucoup plus raide. Là, t'es presque à plat.
Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien d'ailleurs faire du trail dans le Sancy. Alors, j'ai fait pas mal de randonnées assez rapides. On ne peut pas dire du trail parce que je n'ai pas vraiment fait en courant. Si, quoi que j'en ai fait certaines en courant, en descente. Mais j'aimerais bien faire des trails dans cette région-là. C'est assez sympa. Ça m'a bien plu. Hein.
Ouais, bah écoute, t'as le trail du Sancy, en général c'est en septembre, à peu près un mois après l'elfe.
Bon, en même temps, j'ai l'Imperial Trail cette année à Fontainebleau juste après. Donc.
Bon, non mais ça sera pour une autre fois, tu verras, puis c'est un truc sympa. Bon, mais je t'ai pas invité que pour parler d'Ironman, d'Alpha Ironman, de trail ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'impressionne quand je regarde ton compte, c'est la partie yoga en fait. Et c'est vraiment pour ça que je voulais t'inviter. J'en ai parlé il y a pas très longtemps en plus, tu sais, avec sur la partie maman, yoga, etc. Et il y a un truc, c'est un sujet dont j'en ai déjà parlé, parce que moi je m'étais rendu compte que j'étais souple comme un bout de bois. Tu vois,
Ok.
vraiment souple comme un bout de bois.
Belle image, ok.
Ma kiné, quand j'ai fait la rééducation après mon opération du genou, s'est moquée de moi. Elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, ah bah heureusement que tu fais un peu de yoga quand même, parce que dis donc, qu'est-ce que ça serait sinon? Et je lui dis, oui, j'essaie de travailler ma souplesse, mais vraiment, il n'y arrive pas. Alors, on va débunker, tu sais, un truc. Est-ce qu'il faut être souple pour faire du
Ouais.
yoga?
Non. Non, il faut pas être souple pour faire du yoga. Et justement, alors, si tu es souple et que tu commences à faire du yoga, ça va être plus simple au début parce que forcément, on va t'emmener dans des postures tout de suite qui demandent de la souplesse. Mais évidemment, si tu te dis, je suis pas souple, je ne peux pas faire du yoga, bah déjà, tu pourras jamais augmenter cette souplesse parce que il faut le faire pour pouvoir augmenter sa souplesse. Et le yoga, c'est ça qui est très frustrant au départ pour des gens qui démarrent ou qui sont pas souples. C'est qu'ils arrivent dans un cours et souvent le problème, c'est ça. C'est que tu arrives dans un cours, il y a 15 personnes. Alors, je vais pas faire de stéréotypes, mais bien sûr, il y a 15 nanas, dont 10 qui sortent d'école de danse. Et donc, forcément, et là, tu es dans le stéréotype global. Mais c'est souvent vrai. Et donc, tu te retrouves avec des gens face à toi et tu te dis, non, mais l'autre, elle met son pied derrière sa tête, là, comment tu veux que je fasse ça, moi? Je vais pas y arriver. Et donc, ça te dégoûte dès le départ. Et tu te dis, j'y arriverai jamais. Sauf qu'en définitive, la souplesse, déjà, c'est quelque chose qui vient quand même assez rapidement si tu fais les bons mouvements. C'est-à-dire que tu vois vite une progression, malgré tout, par rapport à quelque chose, tu vois, tu te dis, je suis un bout de bois. Bah, peut-être qu'après, tu seras plus version un peu plus roseau, tu vois, qui est encore pas trop flexible, mais qui l'est un peu plus, tu vois, qui commence à te, voilà, qui est plus un morceau d'acacia, voilà. Mais il faut y aller doucement, il faut être hyper humble avec son corps, donc il faut vachement l'écouter, parce que c'est vachement facile de se blesser en yoga aussi, hein. Faut pas croire, hein, parce qu'on fait du yoga qu'on se blesse pas. Moi, je me suis blessé en faisant du yoga, hein. Je vais défoncer des portes, des trucs, hein, des clichés, mais il faut faire attention, il faut s'écouter, mais il faut aussi essayer. Et je pense que quand tu n'es vraiment pas souple du tout, pour le coup, en faisant un peu de yoga, tu vas vite voir des améliorations, mais des améliorations rapides, hein. Après, ça va stagner, c'est comme toutes les évolutions. Tu progresses d'un seul coup et après tu stagnes pendant un moment et tu te dis bon, ça avance plus. Après, tu deviendras peut-être pas souple comme un danseur ou une danseuse. On va faire masculin féminin comme ça au moins, voilà. Mais faut pas s'arrêter à ça. Donc non, il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga en fait. Non.
Alors, ça, c'est un premier truc. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, parce qu'on est quand même dans un, on parle de course à pied, de sport, de vélo, de plein de trucs. L'apport du yoga, tu vois, dans ces sports-là,
Ouais.
comment toi tu vois les choses, le lien, comment il se fait?
Alors, il se fait assez simplement et pas simplement. C'est des deux. Alors, pour info, dans ma formation de yoga, hein, dans mon diplôme, hein, que j'ai passé, j'ai rendu un mémoire à la fin de cet examen. Et ce rapport, je l'ai fait sur la pratique du running et du yoga, pour le coup. Donc c'est vraiment ma spécialité. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a des groupes de yogi runners, hein, qui existent, hein, avec des méthodes, etc., qui sont assez établies. D'ailleurs, de trailers, il y a une traileuse connue qui a démarré un groupe comme ça.
Oui, mais tu sais que j'étais intéressé par la formation en fait. Parce que moi, c'est un truc qui me
Ouais.
tente. Je me disais, tiens, attends, il y a des. J'ai même le livre, tu sais, alors je sais plus leur nom, Hop
Des yogi
Sommaire.
runners, de ouais.
Ouais, de Yogi Runner, tu vois. Et il y a plein de trucs. Alors, c'est ça qui est super intéressant. C'est pour ça que je dis, il faut que j'invite, tu vois, qu'on parle de ça. Parce que quand tu regardes le bouquin, et je leur. Enfin, franchement, je sais pas si tu l'as lu, mais en tout cas, moi, je peux te dire, je le recommande. Il y a plein de positions qui sont super intéressantes, des trucs qui sont assez simples, en fait. Et
Bien sûr.
notamment des trucs, moi, mon ostéo, et là, je sors de l'ostéo encore, et donc, c'est encore un sujet où je suis tout tordu, etc. Et sur la respiration, il y a un nombre de trucs. Enfin, si un coureur qui voit ça, il dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, quoi?
Exactement. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les gens ne font pas le lien avec le yoga. Mais je le comprends, hein. Quand tu es un runner, et je rabaisse pas les runners, bien évidemment, j'en fais partie, c'est cette famille dont je fais partie aussi. Mais souvent, on run, c'est le kilométrage, c'est la performance, c'est toujours plus, c'est faire des perfs sur des distances, voilà, ça peut être version athlée ou version trail. Mais souvent, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand on fait du fractionné, quand on fait de la piste, etc., on tape quand même. Tu le sais, hein, t'en as parlé, etc. Ça tape. Alors qu'on soit pour les amortis ou contre les amortis, etc. Plein d'écoles différentes. Maintenant, je pense que on a besoin. Dans le running, tu fais vraiment un compactage de tes muscles. C'est-à-dire que tu les réduis, tu réduis les muscles, tu réduis les tendons, tu réduis ta capacité articulaire. C'est-à-dire que souvent, tes genoux se plient moins. Parce que tu fais toujours le même mouvement et comme tu muscles autour, tu vas plus pouvoir bouger autant, tu n'as plus la même amplitude. Donc le yoga, il va te permettre déjà de travailler sur ta foulée, d'avoir une posture qui est plus posée, qui est plus stable, avec d'être conscient de tes pieds que tu poses, de position de tes épaules, de tes bras, de ta ceinture scapulaire. Hein. On parle toujours des épaules, mais c'est hyper important. Les gens en course à pied, souvent, ils ont les épaules dans les oreilles, ils sont hyper. Les jambes en maintenant qui courent. Mon défaut, c'est ça. Je regarde tout ce qui est traviole, en fait, tout ce qui est bizarre. Alors, on peut être de traviole et courir très bien, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais ça, c'est une première chose. Donc, sur l'aspect physique, après, sur la capacité respiratoire. Alors là, on pourrait en parler des heures. Je veux dire, les exercices de respiration qui existent dans le yoga, qui peuvent paraître pour beaucoup perchés, parce que respiration égale limite un peu méditation et autres. Il y a de la respiration en style, je remplis les poumons d'air, je reste en rétention, j'attends. C'est un peu une sorte d'apnée, hein, et je le fais en bas également, ou de la respiration alternée, poumon droit, poumon gauche, narine droite, narine gauche, etc. Tout ça, c'est des exercices qui vont améliorer ta capacité respiratoire. Et moi, j'ai jamais autant gagné en capacité respiratoire qu'avec le yoga. Hein. Je veux dire, c'est pas la course à pied a amélioré ça, mais cette concentration sur justement un moment où tu fais ces exercices de respiration à vide, c'est-à-dire au moment où tu n'es pas essoufflé, où tu vas faire des respirations complètes, où tu vas vraiment aller augmenter ta capacité respiratoire et vider tes poumons complètement, eh ben ça te donne un méga plus en course à pied. Et en trail aussi, parce que ça va te donner cette capacité mentale en plus aussi, hein, de mentaliser des choses, de dire, quand on est à 50 bornes, tu commences à te dire, ouf, faut que j'aille jusqu'à 100 par exemple, il me reste encore 50 à faire. Le yoga, c'est une bonne prospection, tu vois. Tu te retrouves un peu tout seul avec toi. Vraiment. Il y a un moment, tu as besoin de connaître.
Ouais, mais tu sais, Elsa avait dit un truc dans l'épisode. Elle avait dit, il y a des positions qu'il faut tenir longtemps, parce que bon, il y a plein de formes de yoga, etc.
Ouais.
Il y a des positions qu'il faut tenir longtemps. En fait, on se rend compte au départ qu'on est incapable de tenir. Mais même la position... Je vais être très basique, même une position qui semble, qu'on voit partout, la position du guerrier, qui semble être un truc simple, mais qui ne l'est pas du tout. Et tu te dis, maintenant, tu vas tenir ça, non pas 3 secondes, mais tu me le tiens 30 secondes.
Ouais.
Rien que ça, déjà, enfin, dans la tête, c'est, tu tiens pas si facilement que ça.
Ben, la position du guerrier, ce qui est génial, justement, c'est que c'est une sorte de fente, en fait. Tu vois, c'est une fente jambes tendues à l'arrière. Donc déjà, dans la course à pied, c'est super parce que, à la limite, des fentes, t'en fais des fois en étirement après run. D'ailleurs, même avant, pourquoi pas. Et donc, le guerrier, c'est cette posture d'ancrage dans le sol. C'est ça qu'on va parler. Hein. C'est une posture d'énergie. Hein. Le guerrier, ben, il porte son nom. C'est quelqu'un qui est posé là, qui bouge pas, qui est fort. Et oui, effectivement, pour garder une fente basse, quand tu la gardes comme ça au milieu de ta pièce et que t'attends et que tu comptes. Alors déjà, il faut respirer dans le yoga. En fait, les gens, en général, quand ils font ça, ils se mettent en apnée. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est ce que je dis dans les cours. Les gens, ils ont le visage déformé, tu sais. Non, mais c'est pas les muscles du visage qui sont en train de fonctionner, en fait. Hein. Donc, on va besoin de sourire, quoi, tu vois, rire parce que externaliser le truc, c'est-à-dire, c'est amusant de faire ça, voilà. Et donc en définitive, quand je leur dis ça, ils se détendent et d'un seul coup, ils se reconcentrent sur leurs jambes et en fait ils y arrivent. C'est de la respiration, c'est de la focalisation sur les bons muscles, les bons endroits. Par contre, je suis d'accord avec toi, il y a plein de postures, alors plus ou moins tenues. Oui, si tu fais du hatha yoga, du vinyasa, etc., plein de familles de yoga. C'est ça qui embrouille aussi les gens en général, c'est-à-dire que tout le monde se dit, oh, le yoga, c'est incompréhensible, il y en a dans tous les sens. Mais il y a plein de postures, on va sûrement en reparler, mais il y a plein de postures qui sont pratiquées par les runners hein, pour s'étirer. Hein. Il y a plein de trucs que les runners, je vois faire dehors. C'est des postures de yoga. Hein. Moi, je peux te donner le nom en sens de posture. Eux, ils ne le savent pas que c'est une posture de yoga parce qu'on le fait classiquement en étirement. Voilà.
Et puis, je vais même te dire un truc, c'est que tous ceux qui font du fitness, hein,
oui.
Honnêtement, ils font il y a beaucoup de positions de fitness. C'est finalement du yoga. Qui a été réadapté, alors un petit peu dynamisé dans certains cas, etc. Et puis une position, je me suis rendu compte, j'arrive plus à avoir le nom de la position, mais que la comment ça s'appelle les salutations au soleil finalement ressemblait en mode lent à certains trucs d'exercices de fitness qu'on fait en mode rapide.
Ouais. Oui, c'est se lever de bras, se redescendre devant. Oui, bien sûr. Ouais,
ouais, se mettre sur les devants et tout.
Adapté. Alors après, c'est pareil avec le pilates. Hein. Tu vois, les pilates, ça peut être assez soft, comme très dynamique. Le pilates, c'est de la musculation profonde. Hein. C'est aller attaquer les muscles profonds, comme ce que tu fais avec le yoga. C'est-à-dire, c'est pas du tout superficiel. Comme si tu faisais de... Alors moi, je peux faire de la musculation. Quand tu fais de la musculation, tu vas muscler, tu vas aller sur les muscles directs. Le yoga, tu vas aller beaucoup plus profondément, donc tu vas beaucoup plus affiner en définitive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se servent du yoga aussi, d'un point de vue fitness, pour affiner le corps, pour le renforcer, musculairement parlant. Mais oui, complètement, très inspiré. Le yoga a inspiré beaucoup de choses. Bon, c'est assez ancien, on va dire. Globalement, c'est un peu une médecine. C'est très spirituel à la base, ça l'est beaucoup moins dans l'Occident. Après, on peut y trouver ce qu'on veut aussi dans le yoga, c'est ça que j'aime bien moi dire. C'est-à-dire que les gens ils trouvent ce qu'ils ont envie d'y trouver et ils en prennent ce qu'ils ont envie d'y prendre, c'est-à-dire ne jamais se forcer à aimer une famille de yoga parce qu'il faut aimer ça aussi, le spirituel, le truc, non, on s'en fout, hein. chacun y trouve ce qu'il a envie de trouver, et je pense que ça peut apporter beaucoup en le prenant comme ça, quoi.
Oui, puis alors, ce que se rendent pas compte les gens, c'est que c'est vrai que le yoga, on a toujours un peu l'esprit des positions, et un peu les, voilà, les positions. Puis en plus, Instagram renforce ce truc, et puis toi, tu fais partie du truc, avec des positions, des inversés, des. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Des belles positions, des belles trucs tenus. Alors, en plus, alors quand c'est les filles, donc il y a des belles tenues, des beaux paysages, des beaux tapis, des choses comme ça, tout ce truc-là. Mais c'est en fait, ce que ça masque, c'est que le yoga est tellement plus large. On parlerait d'inspiration, on pourrait parler d'alimentation, on pourrait parler de tout un tas d'hygiène de vie, parce que finalement, le yoga, c'était d'abord un mode de vie.
C'est ça. Oui. Alors, déjà, je reviens sur le début de ce que tu as dit. Ouais, il faut casser. Alors, bien sûr, on joue de ça avec Instagram, mais tout le monde en joue. Alors, de temps en temps, moi, ça m'arrive de mettre dans mes stories des catastrophes, c'est-à-dire des trucs où je foire tout, où je me casse la figure, parce que ça, c'est assez sympa. Et d'ailleurs, on a fait un challenge, une sorte de challenge avec une copine prof. On s'est dit, on va mettre tous les ratés, en fait. On va faire un hashtag raté, je me casse la figure, parce que justement, pour casser ce truc. Alors, ce qui est assez insupportable sur Instagram, sur le yoga, c'est les gens qui vont être dans des contextes qui sont complètement par raccord avec le yoga. C'est-à-dire, j'ai vu, il y a pas des gens qui faisaient des pauses sur un yacht, quoi. Je veux dire, à un moment, il y avait du champagne à côté. Ça devient n'importe quoi. Bah, pour moi, c'est pas raccord. Tu vois, il y a un truc qui va plus, que ça soit naturel, que ce soit dans des beaux paysages. Ok, pourquoi pas. Après, c'est vrai que tu vois beaucoup d'inversions. Alors, ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que les inversions, c'est une des grandes familles du yoga. C'est quand même une des familles principales du yoga, d'ailleurs, qui est très mise en avant par les profs indiens et par la spiritualité. Hein. C'est des postures très énergisantes qui apportent sérénité, qui apporte un peu le côté méditatif, donc qui sont vraiment vus comme des choses très importantes. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens en font. Après, c'est vrai que c'est souvent, bah oui, sur Instagram, encore une fois, on met les trucs qui sont beaux, quoi. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses. Effectivement, il y a la possibilité d'avoir une alimentation très différente, une vie très différente. Mais c'est ça aussi qui pose problème au yoga, c'est que ça apporte aussi ce côté perché. Tu vois, c'est-à-dire que ce que j'entends souvent, tout à l'heure tu parlais, est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga? On entend aussi, bon, le yoga, ils fument des racines, ils boivent de la tisane, ils sont habillés en leggings qui moulent le corps, tu vois, ils chantent des mantras.
Et tout encore. Ça, c'est pas vrai? Tu le fais pas?
Moi, je bois de la tisane.
Bon, un point.
Je ne fume pas encore des racines, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais non, alors, bien sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais j'allais dire, et puis on s'en fout, et puis tant mieux s'ils y trouvent ce qui leur convient. Et puis bien sûr, il en faut des profs comme ça qui amènent vers ça aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, et qui vont se retrouver dans cet environnement-là. J'ai beaucoup, moi, d'amis profs qui font de la naturopathie, hein, qui sont très branchés sur toute l'alimentation, les jeunes, etc., qui font plein de trucs à côté, ou des soins énergétiques. Ça peut être plus ou moins perché pour le commun des mortels ou pour le lambda, tu vois, pour je sais pas, c'est horrible ce que je dis en disant ça comme ça, mais en plus, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très cartésiens, ils vont pas comprendre, puis il y a des gens, ils sont hyper perchés, voilà, bon, bah, ça fait un spectre très large, on y trouve de tout, mais t'as raison en disant, ce qu'on voit sur Instagram, c'est loin d'être tout ce qu'on peut voir dans le yoga. Et c'est ce que j'essaie, moi, dans mes posts, souvent, de faire des rapports sur soit des choses très mentales, soit des choses très physiques, parler des apports dans chaque domaine, hein, tu vois, le vivre le moment présent. Des fois, je suis un peu plus philosophique, des fois, je suis un peu plus anatomique. Dans mes posts, j'essaie de brasser l'ensemble, parce que je pense qu'on peut y trouver plein de choses dans le yoga, mais je veux pas saouler les gens sur le côté trop mental, hein, tu vois, parce qu'il faut y aller doucement. Hein. Tu disais tout à l'heure, les runners, il y a beaucoup de runners, hein, moi, que j'entends, hein, dans mes groupes, qui me disent, oh, non, mais le yoga, c'est pas pour moi, quoi. Je suis trop actif, puis de toute façon, je peux même pas me plier en deux, je peux pas toucher mes pieds, je peux pas descendre mes mains sur le sol, voilà, bon, je peux pas faire de yoga.
Oui, mais bon, bah, c'est la réalité. Non, mais c'est vrai, comme tu as dit, le yoga, la course à pied, mais comme plein d'autres sports, raccourcissent, raidissent tout. Moi, je vais te dire à tel point, dans ma vie, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, je fais de la course, j'ai fait du basket. Là, j'ai quand même un groupe d'activités. C'est tout ce qui fait que ça raidit, etc.
Bah, le foot, par exemple, c'est clair, hein, les accélérations rapides, le basket, les accélérations rapides, donc pression maximale sur les quadriceps, les ischios, tu fais marcher à fond. Et puis les ischios et les quadriceps, c'est le vrai problème. des runners, c'est-à-dire c'est là que t'es pas souple. Donc quand tu fais du yoga, les premières choses que tu vas essayer d'étirer, c'est les ischios et les quadriceps. C'est des gros muscles hein, dans les jambes, c'est les plus gros muscles du corps avec les psoas. Et c'est vrai que c'est des muscles que tu étires pas facilement. Et donc les runners, quand ils commencent à tirer là-dessus, ça fait mal, quoi. Tu vois, c'est horrible. Donc les footeux, c'est pareil. Les sports co, style basket, c'est la même chose. À la limite, les nageurs, c'est un petit peu différent. Donc les triathlètes, bah le vélo, ça tape aussi, hein, même si c'est des sports portés. La différence, c'est ça, c'est que la natation et le vélo, il n'y a pas de choc déjà, donc bah, moins de choc en tout cas. Alors le vélo, si tu ne te mets pas debout sur ton vélo, il y a moins de choc. Mais les autres sports, oui. Donc le yoga, il peut accompagner tous les sports, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai des gens qui font, j'ai coaché des gens qui font du ski nautique, j'ai des gens qui font des sports très divers, qui tapent, quoi, tu vois. Je pense que c'est un complément pour tous les sports de combat aussi pour le coup. Tu vois.
Et d'ailleurs, tu vois, il y a un truc, ça me fait penser, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc, j'ai pas rebondi sur l'histoire. Tu vas dans un cours de yoga, il y a 15 filles, il n'y a pas de gars, etc. et autres. Il faut le dire, hein, les gars, bon, toi, tu es la preuve, on peut faire du yoga. J'ai même un livre sur le yoga pour hommes à la maison.
Ouais. Ouais. Et alors, et ben, écoute, tu fais pas bien de dire ça. C'est, il y a des groupes hein, carrément en fait. Alors, pour les, moi, des fois, je suis un peu plus pour le. J'aurais envie que ça soit la mixité, qu'on n'ait pas besoin de créer des groupes particuliers, tu vois. Mais j'ai un ami quand même, une connaissance hein, sur Instagram, hein, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui est sorti, qui est à la Fnac, etc., sur le yoga pour hommes. Je sais plus le titre exact. Il a créé un groupe de yoga pour hommes. Il donne des cours. Hein, j'ai fait des cours avec lui où il a que des hommes pour le coup, pour faire découvrir aux hommes dans un contexte un peu plus masculin, on va dire, parce que je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est quand même une difficulté. Alors, il y a toujours cette espèce de côté aussi masculinité, virilité, etc., que les gens ont peur de perdre, je sais pas, en allant dans un cours de yoga. Tu vois, il y a que des minettes en leggings, etc., et les gars, ils se disent « Non, mais j'ai pas ma place ici, etc. » Donc, ces groupes, c'est intéressant parce que ça peut permettre aux hommes d'être plus rassurés, d'être entre eux, pourquoi pas, et après d'aller dans d'autres cours, tu vois. Après, il y a aussi le yoga qui cultive un peu, et ça, moi, ça m'énerve un peu pour le coup, qui cultive ce côté opposition énergie féminine et énergie masculine, ça fait partie de la spiritualité, de l'histoire. Et donc, ça va des fois à l'encontre un peu de mettre les hommes à l'aise, parce que quand tu vas dans un cours où il n'y a que des femmes, qu'est-ce qui se passe? La prof, en général, elle parle de l'anatomie des femmes. Mmh. Et donc, d'un seul coup, elle te dit « Alors, serrez le périnée !» Et là, tu sais... Et les mecs, ils se disent, oui, alors c'est quoi, c'est où, comment ça marche, etc. Donc, on n'a pas les mêmes anatomies, forcément, et donc, c'est problématique. Et je pense que, alors c'est vrai que quand tu es un homme, tu y penses plus, quand tu es un homme prof, parce que souvent, j'ai des hommes dans mes cours, et donc, je vais faire un parallèle. Si je vais sur l'anatomie féminine, je vais aller sur la masculine aussi. Et c'est vrai que ça, c'est important. Mais il y a des groupes, ouais, de yoga pour les hommes, et je pense que c'est important. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, en Inde, le yoga, c'est les hommes pour le coup, puisque c'est l'excès inverse. C'est-à-dire que cette spiritualité, c'est que les hommes, mais c'est pas les femmes pour le coup. C'est l'effet inverse. Et en Occident, ça s'est répandu, mais pour les femmes, ce côté plutôt affiner son corps, etc. C'est parce qu'il y a eu un espèce de truc qui a été donné plus pour les femmes que pour les hommes en définitive. Tu vois, c'est les femmes qui se posent, c'est les femmes qui font de la souplesse, c'est les femmes qui sont calmes et les hommes ils sont actifs. Je sais pas, c'est.
C'est étrange, oui, mais en plus, maintenant que tu le dis, parce qu'on a toujours l'image de yogi homme, le maître yogi, etc. Et moi, je suis sûr, en plus, tu vois, parce que j'ai une prof de yoga dans mes connaissances, et je suis sûr qu'elle me disait qu'il y avait des maîtres de yoga, tu vois, parce qu'il est parti 3 ou 4 mois là-bas, tu vois, faire des.
C'est toujours des hommes.
L'apprentissage, c'est des hommes, hein, c'est toujours ce qu'il me disait, oui.
C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, oui, les grands yogis, la personne qui m'a formé, alors moi j'ai eu une femme sur ma formation, mais c'est la directrice de la formation. Par contre, la personne qui était le maître de formation, c'était un yogi homme qui a vécu dans un ashram depuis sa petite enfance, etc. Mais c'était un homme pour le coup. Tu vois, encore une fois, c'était pas dispensé du tout par une femme. Donc oui, beaucoup de femmes profs sont formées par des hommes pour le coup.
Voilà. Bon, bah après, on saura pas pourquoi, hein, mais c'est vrai qu'après, cette image du yoga, quand même, elle a une image, je pensais, qui vient aussi beaucoup du cinéma américain. Beaucoup du côté un peu révolution sexuelle des années 70, floor power, les hippies.
Ouais. C'est pour ça, hein. Les racines, ça vient de là, hein. Le fumer, etc. Oui, ça vient de là totalement. Ouais.
Ouais.
Ouais. C'était un peu perché, on est tous libres, on fait ce qu'on veut. C'est une espèce de, oui, de mouvement de libération. On passe de quelque chose de très contraint, cadré, à quelque chose où je fais ce que j'ai envie. Quand j'ai envie, je fais ce que je veux de mon corps, en fait. Ouais, c'est une libération du corps aussi, je pense,
Ouais.
globalement.
Bon,
Et
en
d'ailleurs,
tout cas, on va pas faire
en
un.
même temps, c'est un peu une libération du corps, le yoga, en même temps.
Oui, parce que on va pas faire un grand débat sur le yoga, les hommes, les femmes, etc. Mais je vais te dire quand même, parce qu'un jour, j'ai un gars qui m'a fait une remarque et il m'a dit, moi, j'arrive pas à trouver de yoga pour moi. Il y en a assez trop mou, il y a que des filles, il y en a assez, je m'ennuie, d'autres, je m'endors, parce qu'il y a des formes de yoga très méditatif et tout. Moi, il y en a un, je vais te dire, parce qu'un jour, on a fait une séance sur Zoom avec cette fameuse prof de yoga, et elle nous a offert une séance avec ma femme, et ma femme, elle a adoré, et moi, elle me regarde et je dormais.
Bah, si c'est du yin yoga, c'est possible en fait.
Exactement, c'était ça.
Ben ouais, c'est très calme, c'est plutôt pour le soir, c'est un yoga très détente. Ouais.
Ouais, ma femme en fait aussi le vendredi midi et on avait un accord, c'est que j'avais pas le droit de faire le moindre bruit dans la maison, donc c'est le moment où je partais courir, tu vois. Je dis, ah, écoute, je te laisse la maison pendant 1 heure et demie, parce que le moindre pour qu'elle ait justement le silence de la maison, etc. Tu vois. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que ça a tendance à m'endormir cette histoire-là, tu vois. Je suis, c'est pas mon truc. Et par contre, tu vois, ce qui m'attire vachement, c'est con, parce que je suis tellement pas encore capable de le faire. C'est tout le côté les aversions, toi les moi quand je te vois faire tes espèces, j'appelle ça des figures, hein, tu pardonneras, mais c'est le côté parce que ça fait un peu ne le prends pas mal, hein, mais des fois ça fait un peu clown, tu sais, ça fait je vais faire mes aversions là où je peux le faire, etc. Sur des rails de train, enfin non mais sérieusement quoi.
Ça fait un peu cirque, ouais.
Ouais,
Ouais,
cirque.
c'est mon côté un peu addictif sur les inversions, ça m'apporte tellement en fait que j'en fais partout. Et après, justement, j'ai envie de te dire, mais c'est bien que tu vois ça comme. Moi, je suis super content que des gens aient envie, trouvent ça à la limite ludique et intéressant pour d'aller vers le yoga parce qu'ils ont envie de faire des inversions, parce qu'ils trouvent ça fun. Et pourquoi pas? Il y a des profs qui vont dire, ah oh non, mais c'est pas ça le yoga, il faut pas le voir comme ça. Mais si, c'est un point d'entrée dans le yoga. Et au contraire, si ça capte des gens et que le côté fun des inversions, ça les tente, ils vont découvrir le yoga parce qu'ils vont être obligés de faire d'autres choses pour aller vers ça. Et donc, ils vont aller vers le yoga. Et justement, ça leur fera un objectif. Et je trouve que c'est bien d'avoir des objectifs. C'est pas un challenge parce que j'aime pas utiliser le mot challenge en yoga parce qu'il n'y a pas de challenge, parce que je veux pas qu'on se compare. Par contre, c'est un chemin personnel. J'ai envie d'aller faire des équilibres sur les mains, faire des handstands. Eh ben, ok. C'est mon envie. J'ai envie d'y arriver et c'est une sorte de challenge pour moi. Oui, pourquoi pas?
T'as une position que tu fais souvent, alors je sais pas le nom, mais c'est celle où t'es sur une jambe là, avec tu tiens une jambe derrière et t'as le bras tendu devant.
Ah oui. Natarajasana, ouais, c'est la posture du danseur. Ouais, ok.
Ouais, et je sais pas, naturellement, je me dis que ça doit quand même travailler sacrément l'équilibre et qu'on en aurait vraiment besoin en course à pied.
Ouais, et ben justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Il y a plein de postures, mais dont celle-là. Toutes les postures sur un pied, en fait. Toutes les postures d'équilibre sur un pied. Il n'y a pas d'inversion. Hein, on est debout, la tête au-dessus du cœur, pas de problème. Et ben toutes ces postures, elles demandent effectivement une gestion de l'équilibre. Je peux te dire que moi, il y a encore quelques années, quand je le faisais, je me cassais la figure à chaque fois. Bah, je bougeais dans tous les sens, ça partait dans tous les sens. Et en fait, tu travailles vraiment la proprioception de tes chevilles. Alors là, pour le coup, running, c'est génial hein, parce que tu renforces ta cheville et tu vas. C'est comme si tu étais sur une planche qui bouge là. Hein, je sais plus comment ça s'appelle. Toutes ces planches de proprioception qu'on trouve chez les kinés ou même dans les salles de sport. Et cette posture, Natarajasana, déjà, elle va vraiment étirer les psoas, elle va faire plein d'autres choses, extension arrière de la colonne vertébrale. Elle a plein d'intérêts, mais elle va te faire gérer ton centre d'équilibre, ouais, ton équilibre global du corps. Mais t'as la position de l'arbre, hein, tout simplement, hein, cette position où tu mets ton pied contre ta cuisse à l'intérieur, qu'on voit souvent, tu sais, cette posture, voilà, qui te fait travailler aussi. T'as Natyasana où tu tends ta jambe sur le côté, même si tu la tends pas, hein, tu la laisses un peu pliée, t'es pas obligé de la tendre complètement parce que ça peut être difficile. Bah, ces postures sur une jambe, ça te fait travailler ton équilibre. Et les runners, souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que la course à pied, c'est un déséquilibre. La marche, c'est un déséquilibre permanent. Hein. On se déséquilibre pour marcher, on se laisse tomber en avant. Quand tu cours, tu le fais encore plus. Donc, si ton équilibre il est meilleur, forcément ton running il est meilleur aussi et ta foulée elle est meilleure.
Ouais.
Parce que là, on est.
Et je vais même te dire mieux, c'est que l'autre jour, je regardais une méthode de course qui s'appelle la méthode pause. Je peux t'avoir déjà entendu parler, la pause méthode, etc., mais qui est très ancienne, etc. Et dedans, il parle justement de cette histoire d'équilibre. Et il donne même l'angle de l'équilibre qu'il faudrait atteindre. Donc, ça part, attention, hein, c'est que à 22 degrés, tu te casses la gueule, à 21 degrés, c'est le truc idéal pour avancer, pour avoir ta vitesse, etc. Et c'est un truc dont les gens n'ont vraiment pas conscience. Et même, moi, j'étais le cas où moi, je courais presque assis, tu sais, l'ostéo m'avait, j'étais très en arrière, assis, etc. Ça m'avait provoqué des périostites, parce que j'ai l'impression que je respirais mieux, j'en sais rien, je sais pas quoi. Bref. Et puis, c'est parce que j'avais un gros amorti, tu vois, qui se faisait sous la chaussure, parce que je pouvais le faire. Et en fait, depuis que je cours en minimaliste, quand même, ça me pose vraiment la question, tu vois, de me rendre compte que, effectivement, ce déséquilibre-là, il faut l'accepter, en fait.
Oui, bien sûr. Oui. Ben, en fait, je pense que, alors déjà, il faut que chacun trouve un peu le, ah, ok, après, t'as des angles bien précis, etc. Tu les vois dans les bouquins, etc. Maintenant, c'est vrai que chacun a sa foulée. C'est difficile, hein, de corriger les choses dans sa foulée, simplement, hein. Quand on essaie de corriger, des fois, on se blesse aussi parce que quand on contraint le corps, on le voit bien, hein, sur les sportifs de haut niveau, sur les pistes, etc. Ils le font, hein. Faut y aller doucement parce que tu changes quand même des choses. Mais alors après, j'entends ce que tu viens de dire là sur le fait que tu courais trop assis. Il y a beaucoup de gens qui courent les épaules en arrière, la poitrine très sortie parce que c'est une façon de. Et en fait, quand tu fais ça, bah t'es très, t'as le bassin qui est très en arrière. On dit toujours que le bassin, en fait, comme que ce soit en running ou en yoga, tu sais, le bassin, tu le considères comme une cuvette. Tu mets de l'eau dedans et soit il antéverse, soit il rétroverse. Hein. Donc soit il est trop en avant. Et l'eau, elle bascule par-dessus, elle sort devant, soit elle sort derrière. Et normalement, en running, tes deux crêtes iliaques, donc tes deux os de côté, là, des hanches, elles doivent vraiment rester parallèles au sol. Et donc, elles doivent se déplacer comme si c'était une ligne parallèle avec le sol. Donc, en fait, tes hanches, elles bougent pas par rapport au sol. Moi, je mets mes mains de chaque côté quand je cours pour sentir si le bassin, il penche en avant, il penche en arrière, s'il reste fixe, en fait. Et si tu cours comme ça, tu as une espèce de posture qui est bien, il faut relâcher les épaules, les laisser tomber un peu en avant quand même, et pas les mettre en arrière total, parce que sinon tu crispes aussi toute ta ceinture scapulaire, là, tu vois, les clavicules, omoplates, sternum, comme on dit en yoga, tout ça, c'est hyper tendu tout le temps. Et les gens qui courent, souvent, ils sont tout tendus, ils contractent les bras, ils contractent les muscles des bras, etc. Et ça, c'est, tu vois, si tu contractes tout le corps quand tu cours, c'est le haut, tu peux décontracter en principe, hein. Tu vois, ouais. Tu peux le détendre. Mais c'est pas possible, hein, parce qu'il faut isoler les morceaux du corps, en fait.
Mais c'est un sujet dont on avait parlé avec Pascal de chez Apiron, en disant que c'était un défaut qu'il voyait souvent. Et puis, quand il en a parlé, après, je me suis regardé courir. Et tu sais, les positions des bras qui sont un peu hauts, on serre les poings, alors qu'il faudrait pas les serrer, il faudrait avoir les doigts beaucoup plus détendus, etc. Ne serait-ce que parce que, en plus, on dit, mais on dépense de l'énergie à contracter. C'est-à-dire que le muscle contracté, il dépense de la calorie, il dépense de l'énergie.
Ouais. Ouais, et ça, que tu le vois sur, tu vois des, tu vois, t'as déjà regardé des athlètes sur des pistes. Quand tu fais de l'athlétisme, tu vois, du 1000 mètres, des trucs comme ça, les mecs, ils sont hyper compacts, mais parce que eux, pour le coup, c'est des bombes. Et puis, ils ont les bras vraiment de chaque côté qui font des, ils ont les mains vraiment tendues et puis ils bougent les bras de chaque côté. Mais là, c'est autre chose. On est sur un truc très flash au niveau distance. Quand tu fais de la course à pied, il faut réussir à détendre. C'est-à-dire que les bras, ils vont te servir parce que les bras, ils t'élancent quand même. Donc, tu es quand même obligé de les utiliser. Par contre, effectivement, détendre les mains, les doigts, c'est pas bien contracté, ça sert à rien. Sur 10 km ou sur 20 ou sur 30, sur 40, sur un marathon, pas besoin de contracter tes mains. Au contraire, je pense que les gars qui gagnent le marathon, hein, qui sont hyper à fond là, ils sont hyper tendus des jambes, ils sont hyper détendus du corps et de la tête. Parce que pour faire ce qu'ils font, justement, il faut tout mettre en veille dans le corps, hein, parce que pour aller à des vitesses pareilles, je pense que tout leur corps est en stand-by, quoi. Il n'y a plus que les jambes qui marchent. Tout le reste, il est arrêté. Donc, il est détendu.
Moi, je pense que, c'est un sujet que je ferai un jour parce que j'avais trouvé un coureur qui était dans ce cas-là. Mais il y en a même qui sont en état de méditation, en fait, un petit peu à l'extérieur.
Ouais, alors j'en ai parlé dans un post d'ailleurs du run méditatif. C'est un run que tu peux faire, alors en tout cas en dehors de la compétition, pour nous, hein, amateurs, c'est un run que tu peux faire quand tu es sur un parcours que tu connais bien, sans dénivelé, plutôt à plat, avec pas d'obstacles et des trucs où il faut traverser des routes et autres. Mais si tu es dans un environnement protégé, tu te mets dans ce run méditatif, tu le fais en version footing, donc plutôt un rythme cardiaque bas, et tu t'essaies d'être dans les pensées là, maintenant, tout de suite. Soit tu t'isoles avec de la musique, quelque chose de sans parole, très imprégnant ou autre, soit tu te fermes un peu les oreilles de façon à plus trop entendre ce qui se passe, mais donc il faut être dans un environnement protégé, hein. Je ne conseille pas de faire ça dans un environnement où il y a de la circulation. Et ou faire ça en forêt ou autre, et à partir de là, t'essaies de te mettre vraiment dans le moment présent et de penser vraiment à ton corps maintenant, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, et tu cibles ce que tu ressens. Tu ressens dans tes orteils, ce que tu ressens dans tes pieds, ce que tu ressens dans tes genoux. Tu sais, tu montes dans ton corps comme en yoga et tu penses qu'à ça, tu penses plus à ce qui va se passer avant, ce qui va se passer après, etc. T'es vraiment une sorte de run méditatif. Tu peux même faire de la visualisation, tu vas voir des choses derrière tes yeux, etc. Et ben, c'est un run complètement différent. C'est vraiment, c'est assez indescriptible parce que je sais pas trop le décrire. Mais ça te permet de détendre le corps, tu reviens de ton running, t'es différent, quoi. Tu vois, ça t'a, Et après, je pense que ça peut être applicable pour des gens, oui, sur des marathons, les gars qui arrivent en premier, oui, ils sont dans un autre monde, hein, quand ils courent.
Mais tu sais, moi, cette technique-là, j'ai utilisé sur mon dernier trail. Au bout de 20 bornes, j'en ai marre, j'étais HS, etc. Et j'ai interrogé chaque partie de mon corps, comme ça.
Ouais.
Et en demandant à mon orteil, je dis, écoute, petit orteil, comment vas-tu? Alors, bien sûr, il me répond à sa manière, mais il me dit, tout va bien, hop, je peux continuer, etc. et tout. Et en fait, je me suis pendant, ça paraît bizarre de dire ça, mais bon, tant pis, on est perché. Pendant 5, 6, oh, ben après l'épisode que j'ai fait l'automne dernier sur les arbres et la sève, etc., tu sais, je crains plus rien maintenant. Pendant 5 ou 6 kilomètres, j'étais là-dedans, en fait, tu vois, dans se dire, et je me rappelle le lieu, parce que moi, je visualise pas. Moi, j'ai aucune image qui vient, ça, c'est un de mes problèmes. Et je me disais, hop, attends, est-ce que tu vas, mon genou droit, est-ce que tu vas bien? Tiens, elle est là, toi, tu vas bien et tout. Allez, les gars, on est reparti, on détend. Je montais du corps, et puis je redescendais, puis je remontais, je redescendais. Et j'ai passé 6 bornes comme ça.
Ouais, bah oui, mais ça me. Bah oui, mais c'est une façon en même temps de faire ça, que ça soit perché ou pas, comme tu disais. Déjà, c'est ta façon de faire les choses, hein, donc c'est toi qui le sens, mais c'est aussi une façon d'occuper ton mental, d'occuper ton esprit. C'est-à-dire que, effectivement, tu interroges ton corps, et il peut te répondre d'ailleurs, hein, non, ça va pas, ou ça. Voilà. Mais en même temps, ça te focalise sur quelque chose. Donc, c'est une bonne façon, c'est presque méditatif, puisque tu mentalises un truc et tu focalises ton esprit sur quelque chose. Donc pendant ce temps-là, tu penses pas à le fait que t'as mal, le fait que c'est long, que ça va être encore long, de ce que tu vas faire après, tu penses plus à tout ça. Donc c'est une bonne façon de d'externaliser. Et je te dirais, c'est un peu ce que je dis toujours en yoga, hein, ce qu'on fait à la fin, c'est ce scan du corps, c'est-à-dire identifier des zones où il y a plus de blocage, des zones où tu as des douleurs, et les visualiser de l'intérieur, comme si tu voulais aller les masser à l'intérieur. Tu te dis, je vois la douleur, je la vois, ouais, j'ai mal au genou. Cette douleur, je la vois, je sais exactement où elle est, à quel endroit elle est, et je vais aller toucher cette douleur, je vais aller envoyer quelque chose là-dessus. Et ben, il y a plein de gens qui me disent, après le yoga, en tout cas au moins les heures qui suivent, ils me disent, j'avais plus mal quand je suis parti, je sentais plus. Ben, c'est revenu après en marchant ou autre. Mais quand je me suis ressorti du yoga, j'avais plus mal, parce que tu as focalisé des choses différentes, tu as isoler la douleur, en fait. Tu as réussi à envoyer de l'énergie là ou autre. Donc, ça peut paraître perché, mais en tout cas, le retour d'expérience, il fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui me le disent. Donc,
Oui, et puis, j'ai aussi des cas, et c'est vrai que j'avais vu des cas, des gens qui font de la méditation pour faire passer le temps sur l'ultra-trail, tout simplement, parce qu'il y a un moment donné où ils ont besoin d'être ailleurs en disant « mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?»
Moi, j'ai un copain qui fait des trails, genre, par exemple, les sommets de l'Isère. Donc, course de 140 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc, ça annonce la couleur. Il l'a fait en 44 heures. Il n'a pas dormi. Et donc, en fait, il me dit par moment, j'ai eu un moment où je courais et j'étais dans un rêve. En fait, j'avais mes enfants qui couraient derrière moi. Sur plusieurs kilomètres, mes enfants ont couru avec moi. Et dit, je me rappelle juste de ça. Je me rappelle plus où je suis passé. Je me rappelle plus quel chemin j'ai pris. Je sais que mon corps a pris ce chemin-là. Mes pieds ont pris ce chemin-là, mais je sais plus, en fait. J'ai rêvé de mes enfants et que mes enfants étaient avec moi. Point barre. Et c'est impressionnant parce que ça veut dire que soit la personne, elle est dans un état second, méditatif, déconnecté total de la réalité. Et je pense que c'est le cas parce que quand tu cours pendant 44 heures et que tu demandes un effort à ton corps pendant 44 heures en montée, je pense qu'à un moment, tu vois, ton corps, soit il se met en protection, soit il médite de lui-même parce qu'il se ressource, en fait. C'est une façon de dormir. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas pour dormir, effectivement, sur les gros ultra-trails. Il y en a qui s'arrêtent de dormir sur le bord du chemin pendant 5 minutes, et puis d'autres qui ne s'arrêtent pas. Donc, et qui dorment en courant. Et ils le disent d'ailleurs. Ils disent courir, bah dormir en courant. Donc, c'est donc il y a des techniques, hein, bien sûr.
Ouais, bah écoute, on pourrait tester. Alors, c'est peut-être pas testé un petit peu partout, mais tu sais, enfin, un jour, il y avait, j'avais eu le champion du monde d'apnée. Il m'avait dit de faire un essai sur la respiration, parce que tout à l'heure on parlait de la respiration, on avait fait un épisode sur la respiration. Il m'avait dit, il y a un exercice à faire, c'est d'essayer de courir en apnée. Il me dit, mais bon, tu le fais sur piste parce que tu peux tomber. Enfin, il y a un bout d'un moment, essayer de faire 200 mètres sans respirer du tout, c'est super compliqué. Et c'est là que tu te rends compte quand même que c'est le souffle, c'est quand même quelque chose qui est tellement vital et important, mais on n'y fait pas assez attention. Et le yoga permet justement de refaire attention à ça, en fait.
Ouais, bonne technique, l'apnée, là, ce qu'il disait. Ce qui peut être pas mal aussi en courant, c'est d'essayer de courir tranquillement et de re-respirer par le nez, c'est-à-dire de plus respirer par la bouche du tout. Donc, de pas avoir une respiration haletante, c'est-à-dire vraiment pas... Ce qui fait que tu vides que très peu les poumons, tu vides juste le supérieur des poumons, mais d'essayer d'aller respirer par le nez beaucoup plus profondément et d'expirer par le nez. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va te paraître hyper difficile de le faire, de dire, ah, mais j'ai besoin de plus d'air que ça. Ouais, mais tu peux en avoir plus si tu augmentes ta respiration par le nez et que tu augmentes ton expiration par le nez. Si tu le fais tranquillement, et à un moment, tu vas rythmer ta cadence et ta foulée dessus, et tu vas dire, mais c'est super agréable, je me sens hyper bien. Il faut que la capacité respiratoire, elle le permette, parce qu'il faut quand même prendre beaucoup d'air et en ressortir beaucoup vite, ça c'est pas forcément facile, parce que par la bouche on a l'impression qu'on aspire beaucoup d'air et que par le nez c'est plus bloquant, mais faut essayer, c'est vraiment un truc qui fonctionne super bien, quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est vraiment je te dirais, moi j'essaie de le faire. Après la rétention, hein, c'est-à-dire faire de l'apnée, on le fait en yoga aussi, hein, mais en la piste, tu peux le faire. Alors effectivement, il faut le faire tranquille. Il ne faut pas se mettre à courir comme un maboule sur la piste et se mettre à courir, parce qu'à un moment, je pense que tu vas tomber quand même, globalement. Surtout quand il fait chaud comme ça, c'est une bonne idée. Mais voilà, déjà, reprendre cette respiration par le nez pour faire quelque chose de progressif, hein, c'est une bonne technique.
Un jour, je ferai un épisode sur la rétention, parce que ma femme, elle fait un truc qui s'appelle Soma. Et avec des grandes périodes d'apnée, etc. Moi, je suis nul à ça, mais je vais te dire pourquoi. C'est que il y a pas si longtemps que ça, bon, un ostéo m'a dit, franchement, votre diaphragme, vous l'utilisez pas, il descend pas comme il faut, etc. Ça me pose plein de problèmes, hein, ce qui paraît, ce qui est couillon. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai creusé le yoga sur cette histoire de respiration. Et parce que notamment sur le massage des viscères, on se rend pas compte, sur la digestion, la respiration a tellement de liens. C'est tellement important. Et j'ai fait un test qui s'appelle le test de Buteyko sur la respiration. Et j'ai un score qui est nul, mais tellement nul, tu sais. Et donc, c'est un naturopathe. On fait le test et je dis, mais attendez, j'ai couru un marathon. Je vais courir 4 fois par semaine. Et vous me dites que mon score, donc le Buteyko, en fait, c'est combien de temps on est capable de ne pas respirer, en fait, tout simplement. Et que si on fait moins de 40 secondes, grosso modo dans le test, on est en mauvaise santé. Et quand ils me donnent le résultat, je dis, mais c'est pas possible ce truc-là et tout. Et c'est juste qu'en fait, on n'utilise pas nos capacités respiratoires.
Ouais, et je pense que justement, pour le coup, dans la course à pied, tu utilises beaucoup cette respiration abdominale costale, c'est-à-dire que tu fais vraiment tu évacues très vite de l'air, t'en reprends très vite, mais tu vides très peu les poumons, en fait. Donc, tu renouvelles pas l'air, en fait. Tu renouvelles très superficiellement parce que t'as besoin d'énergie tout de suite. Tu vois, c'est comme quand tu te mets à courir où t'es stressé, t'es un peu haletant. Et donc, je pense qu'on n'utilise pas nos capacités, effectivement. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, dans le yoga, on a plusieurs types de respiration pour aller faire travailler le diaphragme. Hein. Okay. Les poumons, c'est rien d'autre qu'un accordéon. Hein. Tu vois, l'accordéon, c'est pas un muscle, hein, les poumons. Hein. Donc, il y a plèvre, etc. Il y a le muscle qui les contracte et qui les décontracte, qui les tire et qui les remonte, le diaphragme. Donc, si tu le travailles pas, ce diaphragme, bah, ça se travaille. Oui, effectivement. Et t'as parlé tout à l'heure des viscères. Il y a une respiration qui s'appelle Noli, qu'on appelle aussi le brassage abdominal, qui est cette posture de yogi qu'on voit, hein, aussi. C'est-à-dire que les yogis qui ont le ventre complètement rentré à l'intérieur, tu vois, le nombril, ça fait comme, on a l'impression qu'ils ont un trou à la place du ventre, ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, ils arrivent même à bouger les abdos, à bouger les viscères, comme ça, puis ça fait des vagues. C'est assez déstabilisant et assez gênant, d'ailleurs, à voir. Tu te dis, non, mais c'est horrible. Eh bien, c'est aller masser l'intestin, aller masser l'estomac, etc. On ne peut pas le faire avec les mains. Tu vois, on peut pas aller. Et ça s'apprend. C'est alors une respiration qui se fait accompagner, hein, faut vraiment le faire. Mais c'est hyper efficace. Alors ça, c'est énergisant aussi, et c'est surtout détoxifiant. Tu te sens 10 fois mieux, ça améliore le transit, ça améliore tout en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire le matin plutôt au réveil, pas après avoir mangé évidemment. Sinon, tu vas te sentir un peu lourd. Si tu masses l'estomac quand il est plein, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Mais encore une fois, toutes ces respirations, ça va augmenter ta capacité respiratoire et ça va augmenter ton contrôle du diaphragme. Et je rebondis encore sur un truc, le yoga par rapport à la respiration, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié. On te dit toujours en début de yoga, moi c'est ce que j'utilise dans mes cours, les gens quand ils se posent au tout départ, je leur dis de commencer par observer leur respiration. C'est-à-dire justement de fermer les yeux et d'observer la respiration. Enfin, ce réflexe que tu as tous les jours, tu respires des milliers de fois tous les jours, sans t'en rendre compte, tu le fais naturellement. Et ben quand tu es au yoga, tu te dis, ben, je vais me concentrer sur ce qui se passe quand j'inspire et je vais me concentrer sur ce qui se passe quand j'expire. Et rien qu'en disant ça, les gens vont prendre le contrôle de leur respiration. En fait, c'est-à-dire qu'ils vont l'approfondir même naturellement sans s'en rendre compte. Et d'un seul coup, ils vont la contrôler, ils vont se rendre compte des espaces qu'ils traversent. Et déjà, quand tu prends conscience de ça, bah, tu as déjà résolu une première chose, c'est-à-dire que tu as pris conscience de cette respiration. Il y a plein de gens qui n'en prennent jamais conscience. Dans leur... Tu n'as pas besoin, en fait. Ça marche tout seul.
Bah oui, c'est automatique, de toute façon. Écoute,
c'est un réflexe vital, c'est reptilien, il n'y a pas, de... pas besoin de le comprendre, ça marche tout seul. C'est comme le cœur.
Oui, c'est même ce qu'on disait avec donc, Arthur Garimboeri, hein, qui est champion du monde d'apnée. Il disait même, en fait, la difficulté de l'apnée, c'est qu'il faut lutter contre ce réflexe vital de vouloir respirer, alors que son but à lui, c'est de rester sous l'eau le plus longtemps possible. Et à un moment donné, ton corps, il dit, ouais, toi, ouais, tu me laisses respirer, gars. C'est tellement... c'est le premier truc qu'on fait, finalement, quand on est cette respiration, qu'on n'y pense plus.
Ouais, tu nais, tu respires directement et je vais pas dire qu'on t'apprend à respirer parce qu'on t'apprend pas, mais si, on t'apprend un peu inconsciemment à la naissance, tu respires, tu pousses un cri, c'est la première bouffée d'air et tu vas continuer à faire toute ta vie en fait. Effectivement, il a raison, changer la routine du corps, dire non, tu vas plus respirer là pendant plusieurs minutes, tu vas pas respirer. Voilà. Ouais, j'imagine qu'il faut lutter contre son corps lui-même.
Ouais. Moi, il y a un exercice que je dis, et je sais pas si en yoga vous le faites ou pas, ou j'en sais rien, la cohérence cardiaque, tu vois, c'est un premier exercice, je pense, pour les gens qui... parce que après, quand on parle de respirer, en fait, avec le yoga, il y a plein de choses, c'est vrai que tu parlais de la méditation, on a un peu cette vision aussi que il faut se mettre en tailleur, qu'il faut méditer, qu'il faut respirer, qu'il faut faire des trucs comme ça et tout, alors qu'en fait, tu peux te mettre sur une chaise, tu peux rester debout, tu peux faire plein de trucs.
Tu peux même méditer en marchant. Ah non, mais complètement. Alors, oui, tu peux la méditation, tu peux te mettre en... En fait, il y a un truc qu'ils disent souvent en méditation pleine conscience. Ils parlent... Alors, moi, j'aime pas cette expression, mais ils parlent de posture humble, hein, bah, de posture digne, mais digne pour toi, tu vois. C'est une posture où tu te sens bien, où ton corps est bien, où tu t'es pas affalé n'importe comment, ou... À la limite, je te dirais, même si ça te va d'être affalé n'importe comment, on s'en fout, c'est d'être assis dans une posture où tu te sens bien. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre en tailleur les jambes croisées si c'est pas agréable pour toi. Parce que s'il faut rester une demi-heure en tailleur et que tu as des fourmis dans les pieds et que tu es coincé de partout, c'est horrible. Il y a plein de gens qui se mettent en tailleur, c'est horrible. Tu vois? Quand t'es pas souple du dos, t'es en arrière, un peu courbé, t'es en train de te couper la figure à moitié, t'es hyper pas à l'aise. Moi, j'en vois au yoga qui débarquent des fois qui font ça. Je leur dis, non, mais mettez-vous pas dans cette posture. On voit que vous êtes pas à l'aise, vous êtes pas bien. Mettez-vous sur les genoux, mettez-vous assis par terre, sur un coussin, sur une brique, sur ce que vous voulez. Voilà. Et après, la cohérence cardiaque, ouais, c'est un bon accès aussi pour donner des rythmes respiratoires, tu vois, se concentrer sur le cardiaque et la respiration. Parce que c'est difficile aussi de partir de rien, c'est-à-dire de se dire « je vais faire la méditation ». Seul, c'est hyper difficile. C'est pour ça qu'il y a autant de sites, c'est pour ça qu'il y a autant d'applis qui le font. Parce que faire de la pleine conscience tout seul... faut être un peu motivé, hein, parce que les premières séances, tu te retrouves un peu tout seul avec toi-même quand même. Hein. Donc, si tu n'es pas accompagné, ça peut pas être. Ça, des fois, c'est pas facile. Hein.
Ouais, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme le yoga, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est-à-dire que quand tu vois des trucs, tu te dis « Oh, ça a l'air sympa le yoga, je vais faire pareil ». Et puis quand tu expérimentes par toi-même et tu te rends compte que non mais c'est enfin soyons honnêtes et puis là je l'ai vécu il y a pas longtemps parce que j'ai un peu mal au dos et puis je sors de l'ostéo donc je lui ai dit il me dit mais vous êtes bloqué le bassin est bloqué enfin j'étais tout bloqué de partout je me suis rendu compte que avec mes opérations j'ai arrêté d'en faire etc il y a des choses que j'arrivais à faire
ouais
que je n'arrive plus à faire et c'est des trucs qui sont très bêtes parce que c'est même des rotations, c'est même faire, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais tu sais, c'est comme le triangle, alors moi j'appelle ça le triangle, mais...
Quand tu es sur le côté, en triangle,
Oui,
oui.
sur le côté, tu vois, d'arriver à mettre la main au sol et tout, de tenir la position, et ben, je
Ouais.
me suis rendu compte que actuellement, je
Tu
suis
allais.
même plus capable de la faire. Et je pense qu'il y a plein de gens, tu sais, qui sont plus capables de la faire, qui se rendent même pas compte à quel point ils ont perdu et on a perdu toute notre souplesse du
Ouais.
simple fait de la sédentarité, du manque de mouvement, du manque d'activité, de plein de choses.
Ah, mais ce qui est clair, c'est que, bon, alors en plus, la période, elle nous a pas aidé, hein, la période sanitaire, hein, les gens ont beaucoup télétravaillé. Avant, quand tu étais au bureau, tu enchaînais de réunion en réunion, mais tu sortais, t'allais à la machine à café, tu marchais d'une salle à l'autre, tu changeais de site, tu te baladais dans le métro, tu marchais dans les escaliers, tu marchais dans la rue, tu prenais ta voiture, bon, etc., etc. Aujourd'hui, quand tu passes de ton bureau à la machine à café chez toi, c'est pas tout à fait la même distance. Et rester assis toute la journée, oui, tu compactes plein de trucs, D'ailleurs, on avait ce problème de dos qui est un peu mal de tout le monde, mais le dos, pour le coup, là, on va en avoir plein, là. Les trous musculo-squelettiques, comme on dit, il va y en avoir plein, parce que les lumbagos, c'est hyper facile, les lumbagos. À partir du moment où tu n'étires pas ta colonne vertébrale, les lumbagos, la sciatique, tout ça arrive hyper vite. Et il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres. Mais le truc, par exemple, travailler ses lombaires, faire des extensions arrière de la colonne vertébrale, ça va te libérer les lombaires, c'est juste un truc de fou, quoi. Donc, il y a plein de postures à faire pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Après, c'est vrai que si tu arrêtes, c'est comme tout, hein, la souplesse, malheureusement, hein, j'ai pas de baguette magique. La souplesse, tu vieillis, tu te raidis, et plus tu fais du sport un peu qui tape, tu vas pas améliorer ta souplesse, c'est sûr. Donc, la souplesse, il faut la travailler. Je vais pas dire que c'est un travail quotidien, mais pas loin. Faut l'en faire tout le temps. Il faut avoir une certaine et réussir à se placer une routine avec son corps pour en avoir envie. Et tu vas garder ce que tu as acquis. Mais par contre, si tu arrêtes, effectivement, ça peut se perdre quand même assez vite.
Ouais. Bon, alors, ce que je te propose pour finir, c'est que on va se dire, est-ce qu'on pourrait mettre en place, tu vois, est-ce qu'il y aurait deux, trois routines qui viendraient du yoga, tu vois, des trucs qui seraient simples à mettre en œuvre dans sa journée, tu vois, en disant, bon, parce que Caroline, que j'ai reçue la semaine dernière, ou il y a 15 jours, me disait, ce qu'on oublie de faire, c'est les étirements, on s'étire pas, etc. Et là, je me dis, les salutations au soleil, ça serait le truc à faire, tu vois.
Ouais. Ben, en fait, ouais. Alors, j'en ai fait quelques-unes sur mes IGTV d'Instagram. Mais oui, des salutations au soleil, c'est assez simple. Et dedans, il y a des fentes, il y a des chiens tête en haut, etc. Donc, qui permettent d'emmener de faire de l'extension arrière de la colonne vertébrale. Tu as des planches, c'est hyper bon pour les épaules et toute la partie gainage, donc les abdos, le dos, les demi-planches, pareil. Donc toutes ces postures-là, une séquence de salutations au soleil qui est très simple à mémoriser, hein, qui est assez facile, que tu fais à droite et à gauche. Moi, j'en fais trois en général au début de mes cours. Je fais trois cycles, mais tu peux le faire une fois. Ça suffit largement avec des respirations. Avec, en général, en yoga, c'est pas difficile. Quand tu montes, moi, je donne toujours ce petit. C'est pas la règle, mais quand tu montes vers le haut, en général, tu inspires et quand tu descends, tu expires. Donc tu te cales sur ta respiration et tu fais ça en profitant justement pour approfondir cette expiration et cette inspiration. Déjà, tu fais ça après tes cours de yoga, après tes running, pardon. Ça te fait déjà un super plus, tu vois. C'est hyper facile. Après, moi, je pense qu'il faut faire attention. Alors, je suis toujours de l'école. Il y a toujours des gens qui me posent la question, les étirements après, avant, pas d'étirements, etc. Ça fait mal, ça détruit le corps, etc. Faut faire des étirements après le running, c'est évident. Il faut en faire. Maintenant, c'est sûr que quand tu as fait 80 km, tu vas pas aller faire des grands écarts. On est bien d'accord. De toute façon, ton corps ne le permettra pas. Puis le but, c'est pas de casser plus de fibres musculaires que tu en as déjà cassé. Donc, on est d'accord. Mais il faut s'étirer après le yoga. Et après, il faudrait faire des petites séances un peu spécifiques d'assouplissement en dehors. En période de running, tu as couru le matin, bah le soir, pourquoi pas, tranquille, sur ton tapis, tu fais quelques exercices en 5 minutes, 5-10 minutes, tu te relaxes un peu et tu essaies d'aller étirer un peu les muscles. Il y a plein de postures, hein, on parle souvent du lézard, je sais pas si tu vois cette posture, les runners, ils le font souvent, on pose des coudes sur le sol, on est en fente, on pose un genou à l'arrière et on vient juste mettre sa jambe à l'avant. C'est pas facile de l'expliquer comme ça, mais c'est une posture que je vois souvent chez les runners, c'est une sorte de fente genou posé. Ça marche pas mal. Il y a cette posture qu'on dit du pigeon où on met sa jambe en dessous, là, son genou en dessous devant, puis on étale sa jambe derrière. Ça, les runners le font tout le temps aussi, sans savoir que c'est une posture de yoga. Ça, c'est des petites postures hyper faciles à faire après le running, tu vois. Tu fais en 5 minutes, c'est fait. Toujours, les gens, ils me disent, ah, mais moi, j'ai pas 5 minutes souvent. Et je leur dis, mais par contre, t'as eu 1 heure pour aller courir. Donc, on voit la différence d'intérêt. Mais voilà. J'en vois beaucoup, moi, qui font aucun étirement du tout, d'ailleurs, qui n'en font pas du tout. Et je pense que ça, c'est vraiment pour le corps. Il faut étirer les ischios un petit peu, il faut étirer les quadriceps, c'est hyper important. Et puis, il faut redonner de la mobilité, comme je te disais au départ, dans les genoux. Tu vois, l'amplitude des genoux, par exemple, tu vois, tu sais bien ce que c'est que les genoux. Toute cette partie-là, on réduit l'amplitude en courant. C'est toujours le même angle. Il faut aller un peu plus loin. Il faut les emmener plus loin, quoi. Donc, ma routine, ouais, les salutations au soleil, c'est une bonne technique. Moi, dans mes IGTV, j'ai fait quelques petites routines que j'ai mises en ligne de façon à le faire rapidement. Je crois que ça dure 5 minutes. Voilà, tu vois, c'est ce genre de choses. Après, on peut faire plein d'autres routines. J'ai plein d'idées en tête, hein. Je peux donner plein de conseils là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est simple à faire, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que souvent les gens ils se disent non, ça me met trop de temps, c'est trop long, etc.
Ouais, puis il faut le dire aussi, c'est que tu as même des choses que tu peux faire debout, tu n'as même pas besoin d'avoir ton tapis.
Ah non, non, bien sûr, bah, moi tu sais, je vais courir à côté de chez moi à la cité universitaire, il y a de l'herbe partout, tu peux le faire, moi je le fais sur la pelouse, il n'y a pas de problème, il y a même un endroit où c'est des planches, c'est du bois, je le fais sur le bois, hein. J'ai pas besoin de tapis pour faire ça. Tant que tu ne te mets pas sur la tête ou que tu fais pas des trucs, ça peut être... Le tapis, il est nécessaire quand tu fais certaines postures, parce qu'il faut un peu d'amorti, bah, bon, un tapis de yoga, il n'y a pas beaucoup d'amorti, hein. Mais c'est plutôt... Pour pas glisser le tapis de yoga en fait. Le tapis de yoga est aussi là pour pas se blesser, faire un écart ou avoir un pied qui part, etc. Mais dans la pelouse, c'est génial justement. Alors au contraire, je dirais même la connexion avec le sol. Moi souvent quand je fais mes étirements, j'enlève mes baskets, j'enlève mes chaussettes, mes pieds nus dans l'herbe. C'est un peu un retour à la terre. Et puis vas-y, tu vois, je trouve ça juste génial. D'ailleurs, j'adore faire ça quand la pelouse est mouillée là le matin. C'est juste génial. Après le running.
Ouais, moi j'ai pas besoin de faire ça parce que comme je cours en sandales, je cours pendant toute la séance les pieds dans l'eau.
Ah oui, j'allais dire, toi, tu dois avoir les pieds mouillés en permanence. Mais justement, pour le coup, tu as cette connexion directe avec le sol, hein, une autre façon. Mais voilà, donc je pense qu'il faut... Et alors, je dirais, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps de faire des étirements avant même d'aller courir. Et alors moi, j'ai constaté un truc dernièrement, c'est-à-dire que des fois, quand je suis un peu HS, que je pars courir, je fais mes 10 km, je fais mon running, je fais mon yoga. Alors, je le fais un peu plus poussé que ce qu'on pourrait faire juste avec des salutations au soleil, mais je fais un petit quart d'heure ou autre, et je repars un peu en courant pour rentrer chez moi. Et en général, je suis hyper efficace sur le running après. Donc, c'est assez impressionnant. Et je me dis que des fois, je devrais faire des... D'ailleurs, je le fais maintenant sur des trails et je vais le faire. C'est-à-dire, avant mon trail, je prends un peu d'avance et pendant 15 minutes, je fais des étirements avant de partir. Alors, pas poussé, hein, mais je fais une sorte de réveil musculaire de mon corps, en fait. Et le matin, c'est hyper efficace. C'est-à-dire, quand tu vas recourir au petit matin, ton corps, il est tout raide, c'est l'enfer. Tu fais un peu de yoga, tu fais quelques mouvements du corps, tu fais un réveil musculaire et ta foulée, elle va être plus déliée, tu as l'impression d'être plus au-dessus du sol, quoi. Et ça te booste au niveau énergie, je trouve que c'est hyper efficace.
Bon, eh ben écoute, sur ces bons conseils, je peux pas te laisser partir quand même sans te poser une question. Non mais est-ce que tu as une astuce pour arriver à faire le handstand? Parce que vous êtes rigolos les mecs là comme ça, vous faites du yoga, enfin les mecs ou les filles, hein, on va pas faire de sexisme dans cette histoire-là. Vous nous faites des équilibres dans partout, devant la cité universitaire à Paris, dans les bois, devant la tour Eiffel, et partout, hop, on se retourne la tête, on se met comme ça, etc. Puis nous, on arrive, on se dit, bah tiens, je voudrais bien faire la même chose, tu vois. Moi, je me suis même lancé un défi très couillon de me dire, je vais faire un stand au sommet de mes petites montagnes quand je fais du trail. Sauf que moi, mes fesses, elles montent pas au-dessus, que ça. Il y a un truc.
Ouais, il y a un truc. Ah, il y a un truc. Ouais, alors faudrait qu'on se voit pour ça. Mais il y a un truc, oui. Alors les fesses qui montent pas. Ben ouais, parce qu'en fait, déjà en handstand, ce qu'on fait en général quand on veut monter en handstand, alors déjà on a la préhension de tomber de l'autre côté. Hein, parce que je veux dire, hein, quand on ne maîtrise pas, on se dit qu'on va tomber de l'autre côté, on va se faire un gros plat sur le dos, ça va être la catastrophe, ça va être horrible. Et effectivement, c'est ce qui peut arriver. Donc il faut être conscient du truc, mais souvent déjà on n'ose pas. Et quand on n'ose pas, on se lance pas en fait dans le handstand. Donc on se retient, on retient le bassin, et quand on pose les mains sur le sol, ce qu'il faut, c'est que ce bassin, il arrive au-dessus des épaules. Il faut que ce bassin, il monte d'abord au-dessus des épaules. Même s'il y a un pied qui reste derrière, il faut qu'il y ait une jambe, obligatoirement une jambe tendue qui donne un peu d'élan, et cette jambe, elle reste tendue, elle pointe vers le ciel. Et ce bassin, il vient se placer au-dessus des épaules. À partir du moment où le bassin est au-dessus des épaules, ça part, ça marche, et tu tombes pas forcément. Après, il faut savoir sortir au cas où. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens que je vois faire, en général, ils n'y arrivent pas. Ils font des ressorts avec leurs pieds. Ils donnent des coups de pied comme ça derrière, et puis ils ont la jambe pliée. Puis, alors, puis je les vois pédaler dans les airs, tu sais, un petit peu comme ça. Et donc, ils ont le bassin qui fait des ressorts, mais qui n'arrive pas au-dessus des épaules. Donc, tant que ton bassin, il reste derrière, bah, tu ne monteras jamais, hein. Parce que la masse lourde, quand même, le bassin, hein, les fessiers, le bassin. C'est une partie volumineuse du corps. Et donc, si tu la mets pas au-dessus de tes épaules, ça marchera pas, tu iras pas dans la handstand. Donc voilà. Et souvent, dans les cours, d'ailleurs, j'ai un cours spécial inversion tout à l'heure, les gens, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, je les mets, soit je les mets contre un mur et on en discute et je leur montre justement ce bassin. À partir du moment où ils ont compris que le bassin devait arriver au-dessus des épaules, là, ils le font une deuxième fois et là, paf, c'est bizarre, le bassin, il monte au-dessus des épaules. Et presque, ils sont en équilibre et la seconde, ils descendent. Ils se disent, waouh, j'ai jamais réussi à faire ça. Voilà, tout simplement. Donc, des fois, ça tient vraiment à pas grand-chose. Et après, c'est la confiance en soi qui va prendre le relais et qui va faire qu'à partir du moment où tu vas plus avoir peur de tomber de l'autre côté, où tu vas te dire « je sais faire une roue, je sais faire une galipette, je sais sortir du truc », bah tu le fais n'importe où, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de risque.
Eh ben voilà, eh ben écoute, hein, comme ça, on sait tout, hein, on sait pourquoi on doit faire du yoga, on sait que tout le monde peut en faire, que c'est pas réservé donc à des danseuses en legging moulant jaune fluo.
Exactement.
Non, parce que ça m'a rassuré. Et puis, alors c'est vrai. Alors pendant que tu parlais, j'ai regardé les références du bouquin. Donc effectivement, j'avais pas du tout connaissance du bouquin dont tu me parlais en français, ouais. Parce que moi j'avais le bouquin de l'américain dont j'ai perdu le nom, mais qui était sorti. Et le gars, je peux garantir qu'il est quand même assez, il est plutôt baraqué. Hein, c'est pas un gringalet non plus. Quand on te voit faire, on se dit quand même qu'il faut de la sacrée force musculaire. Hein, pour les équilibres, etc. Et que, comme tu disais, ça ne travaille pas les mêmes muscles que la musculation, ça ne travaille pas les mêmes muscles, etc. Mais qu'en fait, c'est des muscles qui sont quand même extrêmement importants.
Ouais, et complètement. Et pour le coup, ça a plutôt tendance à allonger, je pense, les muscles, mais à faire des gens qui sont très, très fermes. C'est-à-dire que les yogis, en général, hommes, sont quand même souvent assez secs. Il y en a qui sont très musclés. Parce que ça demande de la force, mais en même temps, je veux pas trop faire le parallèle trop force non plus, parce que pour le coup, il y a plein de gars qui sont pas du tout musclés, et il y a plein de nanas qui font tout petits bras, qui te font des handstands de folie et des équilibres géniaux, on les voit sur Instagram, hein, qui sont dans des postures hallucinantes d'équilibre, et ça les gêne pas du tout, elles partent du sol sans élan, en handstand press direct comme ça, genre moi j'arrive pas à le faire non plus, hein, celui-là c'est mon challenge. Et pour le coup, c'est pas une question de muscle. Donc c'est ce que je redis à souvent des gens qui me disent, j'ai là dans les cours d'inversion qui me disent, ah, mais moi j'ai pas de muscle dans les bras, je suis pas fort. Alors déjà, si t'en as des muscles dans les bras, tout le monde, peut-être moi. Et t'as des abdos aussi parce qu'ils me disent j'ai pas d'abdos. Donc si t'as des abdos aussi en fait. Et donc à partir de là, on peut déjà casser ces idées-là pour que se dire c'est juste des positionnements, c'est de l'équilibre avant tout, c'est de la technique en fait, c'est pas de la force.
Ouais, mais tu sais l'histoire de j'ai pas d'abdos, je l'ai sorti moi une époque et je me rappelle dans un gars qui était joueur de très haut niveau en rugby, qui jouait à l'ASM en jeune puis en équipe dans une équipe nationale de notre pays. Et un jour je lui ai sorti ça comme ça, je dis ouais mais tu sais moi de toute façon moi j'ai pas toi c'est facile, t'as des muscles partout et tout, moi j'ai pas d'abdos. Il me dit voilà, il me dit si ils y sont tes abdos, de toute façon tu tiendrais pas debout. C'est juste qu'ils sont masqués par quelque chose.
Gentiment dit.
Voilà, c'était mon anecdote. Alors, en ce moment, ils sont un petit peu masqués, je dois le dire. Mais c'est vrai que mon objectif, et c'est vrai, tu vois, et je dis vraiment, tu vois, parce que je disais vraiment avec une grande sympathie quand on dit ça fait un peu cirque, un peu clown, tu vois, les positions, etc. Mais moi, tu vois, quand je vois faire tes équilibres là, au bord de la mer, sur les montagnes, etc., j'ai juste envie de faire la même chose que toi, en fait. Et puis quand je vois ton sourire sur les trucs, je me dis oh, punaise, ça doit être cool et tout. Et puis je me dis que faut persévérer en fait. Hein, c'est ça le conseil qu'on donnerait.
Ouais. Et je te dirais dans les inversions, c'est motivation, envie, Assiduité, ouais. Tu vois, persévérer, assiduité, c'est ce que mon prof me disait toujours. C'est le fait de répéter, de répéter, de répéter et de chercher le chemin avec ton corps. Parce que ton corps, il va le trouver, ce chemin. Ça a toujours marché sur tes deux pieds. Les gamins, ils arrivent beaucoup plus facilement à faire les handstands, c'est bizarre. Ils ont appris à marcher depuis bien moins longtemps. Nous, on marche depuis longtemps et on marche sur nos deux pieds, on est en équilibre dans ce sens-là. Bah, quand tu inverses les choses, ton cerveau, faut le temps qu'il se réadapte à être sur les mains. Mais il va vite s'adapter, hein. Et il va vite trouver le chemin. Et il y a des gens qui trouvent très vite le chemin, d'autres un peu plus longtemps. Voilà, c'est normal. C'est comme dans tout, quoi. Tu vois?
Eh ben écoute, c'était une belle conclusion. Ce que je te propose, par contre, c'est de dire où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre.
Alors, on peut me suivre sur Instagram, pour le coup, sur mon compte GregFitTrail. J'ai également une chaîne YouTube GregFitTrail, donc où il y a pas mal de vidéos que j'avais fait pendant le confinement. J'en ai pas remis depuis un petit moment, là, mais il y a peut-être 70 heures de cours, alors à disposition, puisque c'est tous les cours que j'ai enregistrés pendant la période de confinement, parce que je trouvais que c'était super de faire ça. Je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait en famille, je l'ai fait pour tout le monde, en fait. C'était pour donner, parce que j'avais envie de donner des choses. Donc voilà, et puis je donne aussi des cours avec d'autres plateformes, chez Olibi, etc. Donc on peut me retrouver à Paris en s'inscrivant sur les cours directement sur leur plateforme. Voilà, puis on peut aussi me contacter parce que je peux aussi donner des cours individuels. Je fais du coaching individuel aussi autour du yoga, en utilisant le yoga pour le coup, pour des triathlètes, pour des runners, pour des ultra-runners, pour des gens qui font tout type de sport parce que. J'allais dire, tout m'intéresse, justement, je suis assez éclectique à ce niveau-là. Et donc, il ne faut pas hésiter à me contacter directement par Instagram.
Eh ben écoute, Instagram, Greg Fit Trail, hein, comme ça c'est facile.
Ouais.
Tiens, avant de te quitter, donc il y a cet objectif Alpha Ironman fin août, hein, j'ai plus la date en tête.
C'est ça.
T'avais parlé d'un trail ensuite.
Ah oui, alors oui, j'ai un trail avant aussi, hein. J'ai l'éco-trail de Paris, là, le 3 juillet, les 80 km. Donc, bon, voilà. Ça va être. En plus, il va faire chaud. D'habitude, c'est au mois de mars, mais comme ça avait été reporté, c'est au mois de juillet. Et j'aurai l'Imperial Trail, ouais, 64 km, je crois. Et quelques milliers de dénivelés. C'est quand même assez. Il y a du dénivelé. À Fontainebleau, donc. J'avais déjà fait en 2019 sur une autre version et que je refais avec mon équipe de runners. Là, on est tout un groupe de running. Donc, on s'est inscrit à cette épreuve qui est une super épreuve pour le coup dans les rochers de Fontainebleau. C'est très technique. C'est une course qui est dure, mais qui est vraiment belle. Parce que quand on connaît Fontainebleau, là, toute la forêt, c'est assez sympa. Et septembre, c'est plutôt le bon moment. C'est l'arrière-saison. Plutôt sympa.
Eh ben écoute, ben on suivra tes aventures. En tout cas, je te remercie pour cette vision du yoga, du sport, du souffle, de la respiration, de la vie, j'ai envie de dire, parce que puis les gens l'ont entendu, tu as un grand sourire quand tu parles de tout ça, c'est communicatif. Et donc, c'était vraiment super sympa de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets-là. Et vraiment, moi je dis, hein, faut vraiment creuser le truc. Hein, ça fait plusieurs fois que j'en parle du yoga sur en running, j'en avais déjà parlé et je pense qu'on le refera encore d'autres fois avec d'autres personnes, etc. Parce que je crois vraiment que c'est un moyen de progresser dans le sport, mais aussi dans son quotidien, dans son bien-être, dans sa santé, qu'on sous-estime peut-être à cause de ces histoires d'images dont tu parlais au début,
Mais je pense
de
complètement.
ce limite, de dire oui, c'est moi je suis pas assez souple, oui, il y a que des filles, etc. Je veux pas oser y aller, etc. Ou alors c'est je vais m'endormir et tout, et qu'en fait c'est tout un univers à découvrir. Et tu l'as très bien expliqué, et je te remercie beaucoup pour ça.
Ben merci Bertrand, merci pour cette super interview. C'était super sympa cet échange. Et oui, effectivement, je suis un peu bavard en même temps, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur en fait, hein, le running et le yoga principalement, mais le sport et le yoga en principe. Et je trouve qu'il y a tellement de liens à faire. Et depuis que j'ai fait cette formation de yoga et depuis que je suis passé là-dedans, je vois encore plus clair, j'allais dire, sur le fait que il y a tellement de rapprochements et de raccords à faire et que les gens voient pas forcément. C'est vraiment, faut l'expliquer, faire de la pédagogie, il faut en discuter. Et je pense que ça peut apporter tellement de choses en fait aux gens. Et ça serait vraiment dommage de s'en priver, quoi.
Et ben voilà, c'est une très belle conclusion. Et moi, je le dis aussi d'ailleurs sur ma chaîne IGTV, sur une de mes chaînes IGTV, j'ai le yoga pour podcasteurs. J'avais fait une petite séance un matin, les gens ils me regardaient. Mais c'est que tous les matins, je fais ma salutation au soleil et tous les matins, je fais mes respirations, tu sais, pour ouvrir la cage thoracique avant mes enregistrements de podcast, parce que j'enregistre un épisode tous les matins. Et donc, pour justement refaire circuler l'air, parce que on en a besoin pour la voix. Hein. Faut pas oublier que nous sommes des instruments de musique aussi, que ce souffle-là sert aussi à jouer de la musique avec notre bouche et nos cordes vocales plutôt. Et donc on peut l'appliquer à plein de trucs. Et c'est vraiment super cool aussi de discuter de tout ça parce que je crois que c'est en parlant, en creusant un petit peu, on va finir par y arriver, tu vois. Moi, mes hamsters et compagnie, je vais finir par arriver à aller me faire mettre au yoga. Et je me dis qu'un jour on fera une convention des hamsters et on t'invitera pour que tu nous donnes un cours de yoga et de course à pied.
Volontiers, je viens quand tu veux faire un cours à hamster.
Eh ben écoute, on prend le rendez-vous, je sais pas quand, mais maintenant que le rendez-vous est pris, tout ça, on va tous le noter, hein. Il y a que quelques centaines de... plusieurs centaines quand même, hein. Fais gaffe, hein. Il y a beaucoup de monde qui t'a entendu sur le coup le dire. Même des milliers, donc c'est plus... Donc voilà, le rendez-vous est pris. Mais en tout cas, merci à toi beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas avec qui, ce sera la surprise. Comme ça, je fais mes petites surprises, je vous dirai ça. Et puis, on se retrouvera pour parler de tous ces sujets-là. Encore sur le mouvement, parce que le yoga est une autre forme de mouvement. Merci beaucoup, Greg.
Merci, Bertrand.
Ciao, ciao.
Salut.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.